Bienvenue à un nouvel épisode d'Ensemble à la Cour, un podcast de l'organisme juridique Hoche Légal, animé par moi, Camille Lavoie-Rancourt. Ensemble, on démystifie une conversation à la fois la procédure d'un recours devant les tribunaux, le tout pour mieux vous aider à agir seul à la Cour. Dans cet épisode, on va passer étape par étape les recours en droit civil québécois. Le droit civil, ça ratisse large au Québec. Ça peut toucher à de multiples situations, comme par exemple les cas de non-respect d'un contrat jusqu'au préjudice causé par une chute dans un escalier glacé. Et pour nous expliquer toutes ces fameuses étapes en droit civil, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Elisabeth Lachance, qui est avocate en litige chez Steyn Mona et médiatrice accréditée à la Division des petites créances. Au fil de notre discussion, elle va nous aider à y voir plus clair dans les procédures régulières devant les cours civils québécoises, tout en nous transmettant plusieurs de ses précieuses connaissances en tant que juriste aguerrie dans le domaine. Mais avant de débuter, je tenais à vous partager des petites mises en garde en lien avec les propos qui seront échangés. Premièrement, il est important de savoir que toutes les informations juridiques évoquées aujourd'hui ne constituent en aucun cas des conseils ou des avis juridiques. De plus, aucune opinion jurisprudentielle ne sera exprimée au courant de l'épisode et sachez que toutes les informations juridiques qui seront abordées reflètent le droit en vigueur au moment de l'enregistrement de cet épisode. Pour avoir accès aux liens menant aux diverses ressources qui seront mentionnées au courant de l'épisode et pour en connaître un peu plus sur l'organisme Hoche Légal, nous vous invitons à consulter notre page web hochelegal.ca en plus de vous abonner à la page Facebook et au compte Instagram de l'organisme @hochelegal. Bonne écoute! Merci d'être avec nous, Elisabeth.
Merci à toi, Camille.
Bien, évidemment, commençons. Mais avant de commencer, si on peut faire plus ample connaissance, on pourrait parler un petit peu de ton expertise dans le domaine du droit civil. Peux-tu nous parler de ça ressemble à quoi ta pratique? Qu'est-ce qui t'y a amené?
Oui, bien, en fait, moi, ça fait 5 ans que je pratique en droit civil dans un cabinet privé dans la région de Québec. Donc, je suis amenée à représenter, conseiller des gens, aussi des entreprises devant les tribunaux civils et aussi à les conseiller en dehors du tribunal.
Puis, le droit civil, c'est très, très large. En fait, c'est un de nos balados les plus volumineux, là, je dirais.
J'en doute pas.
Est-ce que tu peux nous dire un peu, pour que nos auditeurs, auditrices sachent, est-ce que ça s'applique à moi? Qu'est-ce que ça touche? Puis, évidemment, largement, là, on ne peut pas toucher à tout. Là.
Effectivement. Le droit civil, en fait, vraiment ce sur quoi l'épisode va porter plus spécifiquement, c'est les relations contractuelles, c'est-à-dire tout ce qui implique un contrat, la responsabilité aussi d'une autre personne face à une autre personne. On peut parler de vice caché, dommage à la propriété, ce genre de choses-là. Mais on exclut là, ce qui touche le droit familial, l'adoption, protection de la jeunesse, droit du travail. Donc, ça fera pas l'objet là, de l'épisode aujourd'hui.
Ben non, c'est ça, parce que nous, on parle de procédure, on parle étape par étape de ce qui va nous mener devant le tribunal. Et pour ces domaines-là, donc, par exemple, le droit de la famille, il y a des règles de procédure qui sont spécifiques. Donc, on n'abordera pas ça ici. Exact. On va vraiment parler de droit civil général. Commençons donc par le commencement. On n'est pas encore devant un tribunal. En fait, on a l'impression qu'on a vécu une injustice. Puis comme on le sait, les recours, ça peut se prescrire. On parle de prescription, donc de date d'expiration du recours. Comment ça fonctionne en civil, ça?
En quelque sorte, la prescription, c'est la conséquence de perdre son droit de poursuivre par le simple écoulement du temps. Mm-hmm. Donc, le délai pour poursuivre, c'est variable et ça dépend vraiment de la situation, ça dépend du type de recours, c'est très variable. Faut consulter la loi pour savoir c'est quoi le délai de prescription, puis c'est aussi très important d'agir. Donc, si vous pensez, si les gens pensent être face à une situation qui nécessiterait de poursuivre, bien, sachez qu'il y a des délais de prescription, donc c'est pas nécessairement bon d'attendre ou de laisser le temps passer. Il faut être assez proactif. Se renseigner dans la loi en premier lieu. Donc, oui, il y a des délais de prescription qu'on peut retrouver dans le Code civil, mais il y en a aussi dans des lois particulières. Donc, on n'y passera pas tout ce matin.
Non, ça, on pourrait juste faire ça, nommer un des délais.
Exactement, mais c'est super important à respecter parce que la conséquence, en fait, c'est que le tribunal pourrait refuser d'entendre la demande si elle est prescrite. Si, à l'inverse, on est en défense, ben si on prend connaissance que le délai de prescription est dépassé, ça peut aussi là, constituer un moyen de défense.
OK, fait que c'est comme le petit sablier qu'on a là, là. Et dès le moment où on vit une injustice, il se retourne, puis les deux personnes qui sont impliquées dans le conflit doivent se rapporter à ce sablier-là pour savoir, d'une part, est-ce que je le dis que le délai est écoulé si je suis en défense, puis si je suis en demande, est-ce que mon délai est écoulé, puis ça se peut qu'on me l'oppose, qu'on me dise, non, ton recours, il est prescrit.
Exact.
Donc, c'est vraiment la première question à se poser. Puis c'est assez variable quand même, ça peut aller... de des années à quelques jours, là, pas une journée, mais on s'entend, ça varie. Donc, c'est important de se renseigner. Par exemple, si votre poursuite est aux petites créances, je sais qu'on peut appeler le greffe pour avoir des informations à ce sujet-là. Puis justement, parlons-en un petit peu. On est au tout début, on est dans les premières étapes. Une des premières étapes, c'est la lettre de mise en demeure. On en entend souvent parler. Pas toujours nécessaire, mais on le suggère fortement.
Qu'est-ce que c'est? Parfois obligatoire, par exemple. Camille.
C'est vrai, oui, c'est vrai. Parfois obligatoire.
Alors oui, bien, une lettre de mise en demeure, ça, c'est pas... des fois, on pense que ça ressemble plus à une procédure, mais en fait, c'est vraiment une simple lettre. Par contre, il y a certains éléments qu'on peut y retrouver qui sont typiques d'une lettre de mise en demeure. Soit une entête, c'est-à-dire adresser la, faut que ça soit adressé à la personne qu'on veut poursuivre. Mm-hmm. Si c'est une entreprise, son, l'adresse complète de son établissement. Ça relate les faits, donc un bref résumé. Ça n'a pas besoin de faire 8 pages. Le net de mise en demeure, mm-hmm, habituellement, ça tient sur 1 ou 2 pages. Un bref résumé des faits qui sont importants à la situation. Ouais. Et plus spécifiquement, ce qui est demandé, en fait. Qu'est-ce que vous demandez à la personne de faire? De vous payer, d'exercer, de poser certains gestes, de réparer certains travaux. Tu sais, ce ne sont que des exemples, mais mm-hmm, ça doit vraiment être clairement mentionné dans la lettre de mise en demeure. Et également, assortir ce que vous demandez d'un délai. Généralement, c'est un délai assez court. Des fois, on parle souvent d'un 10 jours, mais c'est vraiment à la personne de choisir dans quel délai elle demande à l'autre de poser certaines actions. C'est en quelque sorte comme un ultimatum, un dernier avertissement, ouais, avant de s'adresser au tribunal.
Puis des fois, ça peut permettre d'ouvrir la discussion aussi. Ça ne veut, exactement, pas nécessairement dire qu'on est obligé d'aller au tribunal si on envoie une lettre de mise en demeure. On n'est pas lié nous-mêmes par le délai qu'on donne.
Exactement. Puis en fait, c'est vraiment une bonne idée parfois d'offrir une alternative, d'ouvrir la discussion, de se montrer ouvert là, à tenir des négociations, peut-être même... est-ce que vous voulez des excuses? Est-ce que vous voulez essayer de régler ça par un échange de services? Si toutes ces options-là sont bonnes avant de s'adresser au tribunal. Il faut juste s'assurer d'être confortable avec le contenu. Parce que la lettre, une fois que c'est écrit, c'est un peu difficile de revenir en arrière puis de changer ses arguments. Il faut vraiment, si vous voulez rédiger une lettre de mise en demeure ou y répondre, c'est important là, de se renseigner déjà à cette étape-ci. Par rapport aux droits applicables puis aux arguments que vous aimeriez, que les gens aimeraient, qu'est-ce qu'on aimerait écrire dedans, là.
C'est ça, c'est une lettre, mais c'est aussi une lettre qui a une valeur juridique, donc qui a une valeur devant le tribunal. Donc, c'est pas le temps d'exagérer, c'est pas le temps de compter nos sentiments nécessairement, c'est pas un journal intime. C'est vraiment le début du processus, donc il faut faire attention un peu à ce qu'on dit là-dedans.
Exact. Puis en fait, c'est sûr que la mise en demeure en tant que telle, elle n'a pas de conséquences sur le délai de prescription dont on vient de parler. Par contre, elle peut avoir certains effets juridiques. Par exemple, si dans la lettre de mise en demeure, on réclame un certain montant d'argent, on demande à l'autre personne de nous payer, la lettre de mise en demeure, ça peut correspondre au départ du calcul des intérêts. Par exemple, si le contrat prévoit qu'il y a des intérêts, si vous voulez réclamer des intérêts, bien, la réception de la mise en demeure peut correspondre au point de départ de ce calcul-là. Donc, effectivement, dans certaines circonstances, c'est pour ça qu'on dit que c'est fortement recommandé d'en envoyer une.
Puis donc, ça n'arrête pas le sablier, mais ça a d'autres effets en droit. Puis ces effets-là, on va les savoir ou on les connaît peut-être déjà, mais ils vont se manifester une fois qu'on est au tribunal.
C'est ça.
Puis qu'est-ce qu'on fait si on reçoit une lettre de mise en demeure?
En fait, il y a autant de réponses que de choix. Vous êtes pas obligé, les gens ne sont pas obligés de répondre à la lettre de mise en demeure. Il n'y a pas d'obligation qui est rattachée à ça. Par contre, ça peut être une belle occasion d'exposer son point de vue à l'autre personne, d'expliquer rapidement c'est quoi les arguments, pourquoi vous pensez ne pas devoir une certaine somme, par exemple. Et ça peut mener à une conclusion qui est différente que celle d'aller devant le tribunal. Ça peut aussi permettre, aussi, à l'inverse, de démontrer qu'on est ouvert à trouver un terrain d'entente. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, c'est où vous devez considérer la possibilité d'y répondre, mais ce n'est pas une obligation de le faire.
Puis quand on l'envoie de l'autre côté de la lettre, quand on envoie la lettre, est-ce qu'il y a une manière précise de le faire? Est-ce que ça peut être par courriel, déposé dans la boîte à mal?
Il y a plusieurs options, mais l'important, c'est qu'on conserve une preuve de réception de la lettre de mise en demeure par l'autre personne. Fait que ça peut être par huissier. Ça, c'est la méthode la plus, je dirais, peut-être la plus dispendieuse. Il y a des frais reliés à ça. Mais ça peut être par poste recommandé. Encore là, il y a des frais, mais peut-être moindres. Ça peut être aussi par un courriel, mais c'est très important de cocher l'option d'avoir une preuve de livraison du courriel et de conserver là, cette preuve-là comme quoi l'autre personne l'a reçue. Parce que sinon, la lettre n'est pas... c'est comme si vous n'en aviez pas envoyé.
Parfait. Puis on a parlé d'entente, on a parlé d'arriver à une résolution du conflit. Je veux juste mentionner aux auditeurs, aux auditrices, qu'on a un épisode complet sur tout ce qui est négociation, conciliation, arbitrage, médiation. Donc, si ça vous intéresse, vous voulez inclure ça dans votre lettre de mise en demeure, vous pouvez en apprendre plus sur l'épisode d'Hush Legal qui s'adresse directement au mode de prévention et de règlement des différends. Donc, on a envoyé la lettre, on a la preuve de réception. Maintenant, on a attendu la fin du délai, parce qu'il faut attendre la fin du délai qu'on a donné.
Dans la lettre.
Exact. Et là, il ne s'est rien passé. On n'est pas arrivé à une entente. On veut aller déposer une demande au tribunal qui est compétent. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est la compétence en droit?
Bien sûr. En fait, c'est un des premiers éléments sur lesquels il faut s'interroger avant de déposer une demande formelle à la Cour. Il faut identifier à quelle Cour il faut aller déposer la demande. Il y a beaucoup de tribunaux qu'on appelle des tribunaux de première instance. C'est en quelque sorte les tribunaux auxquels les gens vont devoir s'adresser en premier lieu. Dans la province du Québec, les tribunaux de première instance, de manière générale, ce sont la Cour du Québec, qui comporte plusieurs sections, appelons-les comme ça. La division des petites créances en fait partie. Il y a la Chambre civile et également la Chambre de la jeunesse. Et également un autre tribunal qui est la Cour supérieure. Donc, comment on doit choisir à qui s'adresser? Il y a plusieurs règles. Encore une fois, il faut consulter la loi pour savoir à qui, à quel tribunal s'adresser. Notamment le Code de procédure civile. Mais aussi, il y a d'autres lois qui prévoient que certains tribunaux spécifiques sont compétents pour entendre des demandes dans un certain domaine de droit. Par exemple, si la demande concerne un bail de logement, alors la compétence dans cette matière-là, c'est le... Elle appartient au tribunal administratif du logement et donc il faut s'adresser à ce tribunal-là.
Donc, il faut déterminer quel tribunal a le pouvoir de trancher le conflit parce qu'ils n'ont pas tous le même pouvoir d'entendre les mêmes conflits. Puis, c'est à la loi qu'on doit se référer. Évidemment, il y a un million de nuances. Quand on est en droit, on est en exception nécessairement. Là, il y en a toujours. On ne peut pas les éviter. Mais... règle générale, on entend souvent en civil, pour les personnes qui se représentent seules, les petites créances. Qu'est-ce que c'est, les petites créances?
En fait, tu as tout à fait raison. Le principe, parfois, la compétence du tribunal, c'est déterminé en fonction du montant qui est réclamé. C'est effectivement le cas là, à la division des petites créances. Donc, si le montant qui est réclamé, si vous demandez un paiement d'une somme de 15 000 $ et moins, à ce moment-là, la demande doit être adressée à la division des petites créances de la Cour du Québec. Il faut faire attention parce que les seuils de montants les montants en tant que tels sont appelés à changer au fil du temps. Mais de manière générale, effectivement, le montant de la réclamation va déterminer la compétence des tribunaux. Si le montant est supérieur à 15 000 $ mais qu'il est moins de 75 000 $ à ce moment-là, ça va être à la Cour du Québec qu'il va falloir s'adresser en chambre civile. Si on est entre 75 000 $ mais moins que 100 000 $ à ce moment-là, il y a un choix. Il y a la personne qui veut poursuivre a le choix de s'adresser soit à la Cour du Québec, soit à la Cour supérieure. Et si le montant réclamé est de plus de 100 000 $ à ce moment-là, c'est vraiment à la Cour supérieure qu'il faut s'adresser.
Donc, de manière très grossière, là, on pourrait dire plus petit montant, division des petites créances, un peu plus gros montant d'argent qu'on veut, Cour du Québec, encore un peu plus gros, ah, on a le choix tout d'un coup, Cour du Québec, Cour supérieure, puis vraiment gros montant qu'on veut, bien, c'est cours supérieur.
Oui. Ce encore une fois, c'est super important de se référer à la loi parce que même si vous entrez dans ces montants-là, il y a peut-être des exceptions qui s'appliquent à votre situation.
Il y a plein d'exceptions, donc c'est vraiment de... Là, c'est juste une ligne directrice pour voir où aller chercher en premier, mais les recherches sont nécessaires parce que si on ne dépose pas la demande dans le bon tribunal, ça peut se retourner un peu contre nous.
Tout à fait. En fait, le tribunal peut refuser d'entendre la demande et même l'autre personne pourrait demander que la demande soit rejetée ou même transférée à un autre endroit. Là. Donc, effectivement, là, ça peut avoir des conséquences.
Donc, déjà, on a déjà deux questions à notre liste de questions. Est-ce que notre recours y est prescrit? Est-ce que le sablier est terminé et s'est tout écoulé le sable? Ou, et encore, est-ce que c'est le bon tribunal? À quel tribunal la loi a donné le pouvoir de trancher mon conflit? Puis là, on parle depuis tantôt d'aller déposer la demande. Qu'est-ce que c'est une demande? Ça ressemble à quoi une demande introductive d'instance?
Tu l'as dit, demande introductive d'instance, c'est vraiment le titre officiel de la procédure, de la demande. Mais en gros, c'est un document qui tient sur des feuilles de papier qui doit être organisé d'une certaine façon. Donc, premièrement, sur la première page, le nom des personnes, des parties sont identifiés. Donc, le demandeur, la personne qui poursuit, son nom complet, son adresse de résidence est indiqué. Tout comme le nom complet, l'adresse de la personne qu'on souhaite poursuivre. Si c'est une entreprise, son nom, l'adresse de son établissement. Donc, c'est les informations qu'on retrouve sur la première page. On doit aussi identifier sur la première page le tribunal à qui on adresse la demande et également le district judiciaire. On n'en avait pas parlé, mais le district judiciaire, c'est en fait la province est divisée en plusieurs districts qui, chacun d'entre eux, ont son propre palais de justice, en fait. Et on doit identifier à quelle localité, à quel endroit on dépose la demande. De manière générale, la règle principale, disons ça comme ça, c'est l'endroit où la personne qui est poursuivie, le défendeur, réside. Donc, il y a encore une fois, il y a une panoplie d'exceptions à la règle, mais c'est quand même le principe général qui doit guider. Donc, une fois que ces informations-là sont sur la première page de la demande, on essaie de résumer uniquement les faits qui sont importants en plusieurs paragraphes. Généralement, la règle, c'est une phrase par paragraphe, donc c'est assez court. Et on essaie là, d'y aller en ordre chronologique pour que le lecteur, la personne qui va lire la demande, puisse bien comprendre ce qui s'est passé. Dans la demande, on peut référer aussi à certains documents qu'on appelle des pièces. Si, par exemple, un de vos paragraphes dit que le 5 septembre, vous avez signé un contrat avec telle personne, vous pouvez produire ce contrat-là comme pièce et y référer dans la demande.
Donc, déposer au tribunal la preuve.
Exact. Et vous devez l'indiquer même dans la demande. Et aussi, à la fin de la demande, il y a une liste de tous les documents auxquels vous aurez référé, qui s'appelle la liste de pièces.
Comme le contrat, la soumission de la compagnie d'excavation, par exemple, ou la soumission du plombier, le nouveau contrat qui a été modifié par... On se comprend, chaque document auquel on réfère, on devrait le soumettre au tribunal parce qu'on ne peut pas juste dire « Ah, ben il existe un contrat ».
C'est ça. Il faut vraiment, si le document existe, il faut le produire. Ce n'est pas nécessaire de tout produire au moment où on rédige la demande. C'est possible d'ajouter des documents par la suite, mais votre demande doit être la plus complète possible dès le départ. La demande doit aussi contenir des conclusions. En gros, c'est spécifiquement ce que vous demandez au tribunal de rendre comme décision. Est-ce que vous voulez recevoir de l'argent, un paiement X? Est-ce que vous souhaitez que la personne pose certains gestes. Donc, ça doit vraiment se retrouver clairement dans les conclusions de la demande. Parce que si vos conclusions ne sont pas claires, eh bien, même si vous vous adressez au tribunal, vous n'aurez pas, les gens n'auront pas ce qu'ils veulent.
C'est ça, au final, c'est de dire au tribunal, si vous êtes d'accord avec moi, avec tout ce que je viens d'exposer, de décrire, voici ce que vous devriez rendre comme décision. Voici ce que je demande.
Exact.
Puis si on demande moins, puis finalement, on se rend... Est-ce que le tribunal, il pourrait nous donner plus que ce qu'on demande?
Non, c'est ça. Le tribunal, il est vraiment tenu. Il va se prononcer, il va rendre jugement uniquement sur ce qui est demandé. C'est pour ça qu'il faut s'assurer que les conclusions soient le plus précises possible et que ça reflète réellement ce que vous voulez, dans le fond.
Donc, à l'inverse de la lettre de mise en demeure, qui avait quand même une forme, mais qui était rien, qui avait rien vraiment d'obligatoire, c'était des choses qui étaient suggérées, la demande introductive d'instance, elle est vraiment plus réglée, formelle. Il y a des règles associées à cette demande-là. Puis avant de l'envoyer, il faut vraiment faire ses recherches parce qu'on va être lié par cette demande-là tout au long de notre cours.
Tout à fait. C'est super important aussi de faire preuve de politesse, de courtoisie dans qu'est-ce qu'on indique dans la demande parce que, sauf exception, là, ce document-là va être public. Donc, c'est important d'être bref, concis et d'être courtois là, dans ce qu'on écrit à l'intérieur.
C'est pas un rose battle.
C'est ça.
OK, parfait. Et puis, donc, je sais qu'il y a des ressources utiles qu'on va mettre en annexe de ce balado-là, de cet épisode-là, pour tout ce qui est modèle de lettre de demande introductive d'instance. Fait que là, on a déposé la demande dans le tribunal, compétent. On a écrit notre lettre de... Pardon, on a déposé la demande introductive d'instance devant le tribunal compétent. Est-ce qu'on va recevoir une réponse du tribunal? Est-ce qu'on va savoir quand est-ce que l'audience se tient? Comment est-ce qu'on va être au courant de quand c'est notre tour d'aller devant le tribunal pour qu'on puisse présenter ce qu'on veut avoir ou ce qu'on veut obtenir?
En fait, il y a plusieurs étapes qui doivent être accomplies avant ça. Donc, si on revient un peu en arrière, mm-hmm. on a fini de rédiger notre demande, on la dépose à l'endroit qu'on appelle le greffe de la cour qui est compétente, qu'on aura déterminée. C'est l'endroit où tous les dossiers sont conservés. C'est important d'amener plusieurs copies de la demande. Une qui va être déposée au greffe, une autre que vous allez remettre à un huissier de justice, mm-hmm. qui, lui, va être chargé d'aller remettre une copie de la demande à la personne qu'on souhaite poursuivre. C'est obligatoire. Cette étape-là, elle doit être obligatoirement faite par un huissier.
C'est pas comme la lettre de mise en demeure où on pouvait choisir. Là, c'est obligatoire. Il faut la signifier.
Oui, puis c'est important. C'est pour vraiment s'assurer que la personne l'a reçue. Mm-hmm. Le huissier de justice aussi, c'est son travail de le faire. Donc, c'est important de contacter un huissier. Évidemment, il y a des frais rattachés aussi à ce service-là. Et une fois qu'il va avoir remis copie de la demande, il va vous remettre ce qu'on appelle un procès-verbal de signification. C'est un grand mot pour dire que c'est un rapport qui va vous dire que la demande a été remise à telle personne, à telle heure,
C'est un accusé-réception.
Exact, mais très officiel et qui est super important de conserver parce que ça doit être déposé au dossier de la cour par le demandeur, par la personne qui est l'auteur de la demande.
Parfait. Donc, le mot-clé au début, c'est greffe et huissier.
Exact. Et c'est ce qu'on appelle tout ce processus-là avec le huissier. On appelle ça la signification.
Donc, ça, c'est notre première étape une fois qu'on a déposé la demande introductive d'instance. On est vraiment entré dans le processus judiciaire. On a fait nos deux premières étapes. Ensuite, qu'est-ce qui se passe?
En fait, et c'est là que si vous vous faites poursuivre, que vous recevez vous-même une demande introductive d'instance, si le huissier vous remet ce document-là, il faut agir. Il ne faut mm-hmm. pas mettre ça de côté puis laisser ça attendre. Il y a des graves conséquences qui peuvent être rattachées au fait de ne rien faire. Et dans la demande, c'est important de la lire au complet, de la première page à la dernière page, parce que les dernières pages on va y retrouver ce qu'on appelle l'avis mm-hmm. d'assignation et toutes les étapes à suivre pour répondre à la demande. En gros, il y a un document, un formulaire à remplir qu'on peut retrouver là, sur le site de soit la Cour du Québec, soit la Cour supérieure, dans ces cas-ci, qu'on complète en y indiquant le défendeur, la partie qui est poursuivie, va compléter ce document-là en indiquant ses coordonnées, son adresse, s'il est représenté par avocat, les coordonnées de son avocat, et ses intentions pour les prochaines étapes. Est-ce qu'il veut contester la demande? Est-ce que, puis il y a, en fait, dans le formulaire même, il y a d'autres options, mais c'est ce document-là qu'on appelle la réponse qui doit être complétée dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande introductive d'instance. Donc, c'est assez court et c'est pour ça qu'il faut réagir rapidement.
Fait qu'on a cette liste d'étapes par étapes, qu'est-ce qu'on doit faire, un peu un guide 101 de vous avez reçu une demande introductive d'instance, il y a un recours contre vous, voici vos étapes.
Exact.
Mais l'important, le mot-clé, c'est agir vite.
Oui, puis lire, en fait. Il faut lire jusqu'à la fin, puis aussi aller chercher, si ce n'est pas clair pour vous, d'aller chercher de l'information, parce que c'est ça, vous avez, dès que la demande est déposée, dès que le recours est ouvert, il y a des actions à poser pour la suite.
Donc là, les deux personnes qui sont en jeu dans le conflit sont intégrées dans le processus judiciaire. On a les deux joueurs en jeu. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? La personne, elle a répondu, elle a fait sa réponse. Le défendeur a rendu sa réponse. Est-ce qu'on est à l'étape, comment est-ce qu'on sait quel est l'agenda, quel est l'agenda de notre recours, si on veut, les dates importantes?
En fait, ça dépend vraiment du tribunal, devant quel tribunal le dossier a été déposé. Mais si vous êtes devant la Cour supérieure, l'agenda auquel tu réfères, effectivement, il y en a un à compléter, une espèce de calendrier qui prend la forme d'un formulaire et qu'on appelle le protocole de l'instance. Donc, encore une fois, c'est un formulaire qu'on peut télécharger, remplir, qu'on peut trouver sur le site de la Cour supérieure et qui doit être complété par toutes les personnes qui sont impliquées dans le dossier. Donc, le demandeur, le défendeur et s'il y a d'autres parties. Tout le monde doit indiquer les étapes qu'il veut faire et aussi dans quel délai il a l'intention de le faire. Il faut qu'on s'entende sur une version finale. Une fois que tout le monde est d'accord avec la version finale, elle est signée par chacune des personnes et ça peut être aussi signé par les avocats de ces personnes-là s'ils en ont. Et ce document-là, le protocole de l'instance, l'agenda, il est déposé au dossier de la Cour. Et à partir de ce moment-là, tout le monde est tenu de le respecter.
Les dates sont fixes.
Exact.
Parfait. Donc, on a établi notre agenda, notre calendrier. Encore une fois, on le répète, le protocole de l'instance. Est-ce qu'on a un délai pour le compléter? Supposons qu'on ne s'entend pas, il y a de la chicane. Non, je ne veux pas cette date-là, je veux cette date-là. Oh, je ne veux pas que tu présentes cette preuve-là.
Effectivement, il y a un délai pour compléter le protocole de l'instance qui est prévu là, dans le Code de procédure civile, qui est de 45 jours. Donc, à partir du moment où on reçoit copie de la demande, de la poursuite, tout le monde a un délai de 45 jours pour compléter le protocole et le déposer. Donc, ça peut paraître long, 45 jours, mais ça va quand même vite. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Et si ce délai-là n'est pas suffisant, alors, bien, il y a plusieurs options qui sont possibles. On peut demander au tribunal de l'aide là, pour convenir ensemble des prochaines étapes si on ne s'entend pas, par exemple. Ou également, mais le tribunal pourrait convoquer de lui-même les parties là, pour qu'il y ait un agenda qui soit fixé.
Donc, le tribunal envoie une lettre, si on veut, à chaque personne impliquée dans le conflit en disant « Vous allez vous présenter à telle date, telle heure, puis on va régler ça, ce protocole de l'instance. »
Exact. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir répondu à la demande, d'avoir indiqué ses coordonnées, parce que par la suite, la Cour va nous communiquer avec nous là, à cette
adresse-là. Ce ne sera pas par texto.
Non, c'est par la poste. Alors, il faut vraiment il y a aussi par courriel, là, on voit un peu les deux possibilités, mais il faut prendre ses courriels régulièrement, il faut aller prendre la poste régulièrement aussi.
Donc là, on a notre agenda. Et comment est-ce qu'on va faire pour dire, bon, l'agenda est seté, on a établi les dates, quand est-ce qu'on passe devant le tribunal?
En fait, c'est très variable, mais il faut compléter ce qu'on appelle un autre formulaire, une autre demande, qui est la demande d'inscription. En quelque sorte, c'est vraiment un document qui va venir dire au tribunal, nous sommes prêts à aller devant le procès, nous sommes prêts à avoir une date de procès, toutes les étapes à notre agenda ont été complétées. Et c'est vraiment, encore une fois, un formulaire qu'on retrouve sur le site Internet de la Cour qu'on aura saisie, la Cour devant laquelle la demande va avoir été produite, et qui doit être complétée par toutes les personnes impliquées. Et une fois que c'est déposé, le tribunal va pouvoir vous donner à toutes les parties certaines dates pour que le procès ait lieu.
Donc, on a coché étape par étape les dates du protocole de l'instance. Et là, on fait, pour rappel, le nom du formulaire, une demande d'inscription pour instruction et jugement. Cette demande-là va nous permettre d'établir une date où on va se présenter avec l'autre personne impliquée devant le tribunal. Et c'est là que le procès, comme on le voit dans les films ou les séries télé, va se dérouler.
Oui, effectivement. Généralement, l'ensemble des étapes d'un dossier, là, donc à partir du moment où la demande est déposée jusqu'à la demande d'inscription, les gens ont 6 mois pour compléter toutes les étapes qui sont prévues à l'agenda. Évidemment, il y a encore une fois des exceptions. Ce délai-là peut être prolongé si quelqu'un le demande. Le tribunal peut aussi le modifier en rendant une décision. Donc, c'est pas un délai qui est coulé dans le béton, mais c'est vraiment en principe général. Le principe général, c'est que les gens ont 6 mois pour faire les étapes, tout l'ensemble des étapes qui sont prévues dans leur dossier.
Puis évidemment, il y a des choses qu'il faut faire de notre côté aussi avant de se rendre devant le tribunal. Il y a des étapes pour préparer notre dossier. Comment est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce qu'on devrait faire de notre côté au-delà du protocole de l'instance?
Oui, une fois que toutes les étapes du protocole sont complétées, il y a une certaine préparation à faire en vue du procès. C'est pas recommandé d'attendre à la dernière minute. Là, il faut se préparer à l'avance, au moins un mois avant, là, tout dépendant de votre situation. Mais la première étape, c'est de faire vraiment une recherche. Vraiment, là, une recherche sur le droit qui s'applique à votre situation. Pour ça, il y a plusieurs outils qui existent, des moteurs de recherche sur Internet qui sont gratuits pour essayer de trouver quelle est la loi qui s'applique. Est-ce qu'il y a aussi des décisions, ce qu'on appelle la jurisprudence, des décisions qui sont similaires à ma situation et qui pourraient prévoir certains principes de droit. Et également, ce qu'on appelle la doctrine, qui en fait, ce sont des textes rédigés par des auteurs spécialisés dans certains domaines de droit. Ça aussi, là, ça peut être consulté dans le cadre de la recherche pour connaître un peu les règles de droit qui s'appliquent.
Puis ça, cette recherche-là, on peut la commencer même avant d'écrire la demande d'introductive d'instance ou même avant la lettre de mise en demeure. Parce qu'encore là, chaque fois qu'on a demandé quelque chose au tribunal, idéalement, il faudrait qu'on ait en tête comment les autres tribunaux avant ont tranché les mêmes conflits ou les conflits qui sont similaires.
Exact. La recherche juridique, elle peut être faite à tout moment, là, que ce soit même avant le dépôt de la demande. Mais c'est quand même suggéré de refaire une petite...
Se mettre
petit
à jour.
Exactement, pour juste s'assurer qu'il n'y ait pas eu de nouvelles règles ou de nouvelles décisions rendues sur le même sujet avant que nous-mêmes, on se présente devant le juge.
Puis ça, c'est tout ce qui est droit, mais pour tout ce qui est fait, qui sont vraiment spécifiques à mon histoire, mon conflit, on parle des fois de témoins. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si on veut des témoins, si on en a besoin?
En fait, c'est vraiment relié à la recherche qu'on va avoir faite. La recherche, idéalement, va avoir permis d'identifier les éléments en droit que vous devrez prouver au juge pour qu'il vous donne raison, pour qu'il vous donne ce que vous souhaitez obtenir. Par exemple, si vous poursuivez votre voisin parce que vous êtes tombé dans son entrée qui était glacée, les éléments qui doivent être démontrés au tribunal, c'est premièrement, une faute, c'est-à-dire l'entrée était mal déneigée, déglacée. Deuxièmement, que vous vous êtes blessé, que vous avez eu des douleurs, que vous avez dû manquer du travail, que vous avez eu des pertes de revenus reliées à cet événement-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le préjudice, les dommages. Troisièmement, un lien entre la faute et les dommages. Donc, c'est parce que je suis tombée, que je me suis blessée, que j'ai eu des douleurs, j'ai eu des pertes de revenus, j'ai manqué du travail, etc. Et là, pour ces trois éléments-là, il faut s'interroger, est-ce que j'ai besoin d'un témoin ou est-ce que j'ai des documents qui me permettent de démontrer que l'entrée était mal déneigée, qu'il y avait un problème avec l'entretien? Est-ce que j'ai des documents, est-ce que j'ai besoin d'une preuve médicale, par exemple, si j'ai eu des blessures. Donc, c'est qu'un exemple, mais c'est vraiment sur les critères qui doivent être démontrés, qu'il faut s'interroger. Est-ce que j'ai besoin de témoins? Est-ce que j'ai besoin d'une pièces, de documents pour venir supporter mon point de vue?
Parce que le tribunal, il n'est pas là avec nous quand l'histoire se passe, évidemment, mais il va falloir lui présenter d'une manière qui le convainc. Et nécessairement, par exemple, on peut venir dire au tribunal, mais l'entrée, elle était glacée, pour reprendre l'exemple. Mais ça peut être intéressant si notre voisin nous a dit, ah oui, ça fait des semaines que je remarque que l'entrée est glacée. Moi aussi, j'ai glissé, j'ai failli glisser. Ça, c'est là où on peut se dire, ah, ça pourrait être intéressant que cette personne-là, mon voisin, vienne raconter au tribunal pour confirmer ce que j'ai dit. Parce que le fardeau de la preuve, comme on l'appelle en droit, ou l'obligation de convaincre, elle est à qui?
Elle appartient à la personne qui s'adresse au tribunal. Donc, la personne qui poursuit, c'est elle qui a le fardeau de la preuve, le fardeau de démontrer que qu'elle dit que l'événement a réellement eu lieu, et il doit le démontrer avec ce qu'on appelle la balance des probabilités. Donc, si on a le plateau de la justice, par exemple, il faut montrer que le plateau penche un peu plus de notre côté que l'inverse. Donc, il faut montrer que c'est à peu près 51% de chances que ça se soit produit comme je le raconte ou comme mes témoins vont venir le raconter. C'est plus simplement s'il y a quelqu'un qui a vu votre chute. S'il y a quelqu'un qui a vu l'accident, bien, c'est sûr que cette personne-là pourrait venir témoigner à titre de témoin ordinaire. C'est comme ça qu'on les qualifie. C'est pas parce que ce sont nécessairement des gens
ordinaires. Tout le monde est unique. Le monde est un flocon de neige avec un monde intérieur. Mais en droit, il y a des témoins ordinaires puis des témoins experts.
C'est juste pour les différencier des témoins experts. Un témoin ordinaire va venir à la cour pour venir raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a pu même écrire, tandis qu'un témoin expert, lui, va être autorisé à donner son opinion. Habituellement, sur un sujet qui est plus technique, là, qui nécessite une connaissance ou une certaine expérience. Mm. Par exemple, un ingénieur qui viendrait témoigner, donner son avis sur est-ce qu'un un bâtiment est conforme aux normes du bâtiment, par exemple. Donc, tu sais, ça, c'est un témoin expert qui va devoir donner son opinion, si c'est nécessaire, là, dans votre cas.
Ma meilleure amie ne peut pas venir dire « Mon terrain n'était pas nivelé, il était croche quand je me suis assise sur une chaise. » Ben je le voyais à l'œil.
C'est ça.
Il faudrait un expert, quelqu'un qui a une expertise pour dire, en effet, le terrain, il est croche.
C'est ça, exactement. Puis le témoin expert, habituellement, a produit ce qu'on appelle un rapport d'expert, donc un document écrit qui énonce son analyse brièvement, et les conclusions auxquelles il en arrive. Par exemple, je suis allée sur les lieux tel jour, j'ai vu que les poutres du bâtiment étaient croches, j'en viens à la conclusion que les normes n'ont pas été respectées. Par exemple, c'est très simple, mais et ce document-là, ce rapport d'expertise-là, doit être déposé à l'avance au dossier de la cour. Et si la personne qui a engagé l'expert le souhaite, l'expert peut quand même venir témoigner pour donner certaines précisions, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Son rapport peut être tout aussi valable que son témoignage.
Donc, si je me rapporte à la préparation, en premier, je fais des recherches pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je prouve en tant que personne qui demande quelque chose au tribunal. Qu'est-ce que les autres personnes avant moi, parce que je ne suis pas la première personne à avoir vécu cette injustice ou ce conflit-là, il y a sûrement d'autres décisions qui ressemblent à la mienne, avec des faits qui sont similaires. Donc, qu'est-ce qui est demandé aux autres et à moi pour prouver et avoir gain de cause devant le tribunal? Puis, une fois que j'ai établi ça, ces éléments juridiques-là, bien, c'est de voir dans mon dossier comment je peux les prouver devant le tribunal. C'est ça, préparer son dossier. C'est savoir comment je vais prouver au tribunal les faits. Puis qu'est-ce que c'est le droit que je vais dire au tribunal qui s'applique?
Puis ce qui est plus important, c'est vraiment la loi. Les décisions, ça peut être compliqué, ça peut être quand même assez... C'est une recherche qui est plus poussée généralement, mais le point de départ, là, ce qui est super important, c'est vraiment de sortir les règles de droit qui s'appliquent à votre situation. Puis tout dépendant que votre situation est reliée au non-respect d'un contrat, si plutôt elle fait intervenir, comme on a parlé tantôt, des vices cachés, le régime juridique, les règles de droit qui vont s'appliquer vont être totalement différentes. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire une bonne recherche avant de s'adresser à la cour.
Donc, notre dossier est sensiblement monté. Ça prend énormément de temps, c'est sûr, c'est prenant. Mais une bonne préparation va permettre que l'audience se déroule bien, qu'on soit moins nerveux. Puis il faut préparer aussi les témoins si on décide de d'avoir des témoins. Puis comment est-ce qu'on fait ça, préparer des témoins?
Bien, en fait, préparer un témoin, ça ne veut pas dire de lui dire quoi dire. Il ne faut pas faire ça. De toute façon, la personne va témoigner, va dire la vérité lorsqu'elle aura à s'adresser au tribunal. Qu'est-ce qu'on veut dire par préparer un témoin? C'est de savoir à l'avance qu'est-ce qu'il peut apporter à votre point de vue. Il faut connaître la version du témoin en avance pour savoir quelles questions on veut lui poser. Ce n'est pas au moment où on pose des questions devant le juge que c'est notre première fois qu'on rencontre la personne. Idéalement, on essaie de lui avoir parlé avant, de lui avoir laissé l'opportunité de raconter son histoire, puis d'identifier quels sont les éléments qui, pour moi, sont importants et que j'aimerais qu'ils viennent dire, expliquer au juge. Et pour ça, il faut avoir préparé une liste de questions qu'on veut poser à notre témoin. Généralement, c'est des questions qui doivent être directes, donc qui commencent par « quand »,« où », »,« qui », »,« pourquoi », »,« comment », donc des questions qui ne laissent pas suggérer une réponse. On ne peut pas mettre des réponses dans la bouche de notre témoin.
On ne peut pas dire « n'est-il pas vrai que… » Non.
Est-ce que c'est vrai que vous étiez à tel endroit, à tel moment, avec telle personne, puis que telle chose s'est dite? Ça, c'est témoigner à la place du témoin, en fait.
Puis au final, le tribunal, il ne peut pas retenir que c'est la version de la personne qui parle parce qu'elle fait juste dire oui ou non. C'est beaucoup mieux de lui laisser dire son histoire, ce qu'elle a vu et entendu ou ce qu'elle a pensé, de penser évidemment pas dans l'opinion, de telle situation.
Exact. Il faut se rappeler les principes d'une entrevue, là. Où vous étiez, avec qui vous étiez, quand, pourquoi. T'sais, vraiment des mots-clés comme ça qui vont pouvoir juste guider le témoin puis lui faire raconter uniquement ce qui est important.
Donc, notre dossier est sensiblement préparé. Et là, j'aimerais maintenant qu'on aborde ce qui se passe le jour où on se présente devant le tribunal.
En fait, si on peut diviser les grandes étapes d'un procès, disons ça comme ça, bien, ça commence par la présentation de la preuve du demandeur. Donc, on le disait tantôt, celui qui a le fardeau de la preuve, c'est la personne qui poursuit. Donc, c'est la première personne qui va avoir à présenter sa preuve. Ensuite, le défendeur, la personne qui est poursuivie, va devoir également présenter sa preuve. Une fois que ces deux étapes-là sont faites, ce qui se passe, en fait, c'est l'argumentation. Ce sont les plaidoiries. Donc, à tour de rôle, les gens, les parties, les personnes qui sont impliquées dans le dossier vont avoir l'opportunité de faire ce qui s'apparente à un exposé oral, d'expliquer au juge, d'essayer de le convaincre, d'argumenter par rapport à son point de vue à lui. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les plaidoiries.
D'accord. Donc, si on revient un peu, la présentation de la preuve, c'est vraiment les faits. C'est toute mon histoire. C'est comment je la compte de A à Z, puis ce que je veux présenter qui est pertinent au tribunal, puis c'est là qu'on entend les témoins.
C'est ça.
Et c'est là qu'on parle d'interrogatoire et de contre-interrogatoire.
En fait, c'est exactement ce qu'on a parlé tout à l'heure, donc les témoins et les documents, les pièces qu'on va avoir déposées. Donc, les témoins, c'est comme on disait tantôt, c'est le demandeur qui commence. Donc, les témoins qu'il aura choisis vont témoigner dans l'ordre aussi qu'il aura choisi. La personne elle-même peut témoigner. Si, par exemple, je poursuis parce que je me suis blessée en tombant, mais moi, je peux témoigner sur les faits qui me sont arrivés, puis je peux décider de témoigner en premier, par exemple. Mais j'ai peut-être d'autres ensuite témoins qui vont devoir également répondre à mes questions par la suite. Et c'est comme on disait tantôt, des questions directes qui devront être posées aux témoins. Et aussi, le tribunal va prendre des notes, va écouter les réponses. Et c'est vraiment ce qui va viser les témoignages. Ensuite, tu mentionnais contre-interrogatoire. L'autre partie, l'autre personne, va aussi avoir l'occasion de poser des questions à nos témoins, mais de façon différente. C'est vraiment dans un autre objectif, c'est-à-dire de faire ressortir les points faibles du dossier ou même des éléments qui ne font pas de sens dans
des contradictions.
Témoignage. Exact. Donc, c'est vraiment des éléments ciblés. Il faut dire que ce n'est pas obligatoire de faire un contre-interrogatoire non plus. C'est vraiment selon ce qui aura été dit par rapport aux réponses des témoins. L'autre personne va avoir le choix de les contre-interroger ou non. Il faut garder en tête que notre preuve à nous, là, qu'on soit en demande ou en défense, on l'a fait avec nos propres témoins, mm-hmm. avec les gens qu'on aura choisi de faire témoigner à la cour, pas avec ceux des autres, de l'autre personne.
Donc, un à un, les témoins vont venir rapporter les faits qu'ils ont eu connaissance. Ils vont être interrogés et ensuite contre-interrogés, puis ensuite on change de témoin.
C'est ça, c'est le même principe. Mais c'est la partie maintenant qui est en défense qui va procéder.
Et si moi, en tant que personne qui se représente seule, je décide de témoigner, je peux aussi être contre-interrogée.
Tout à fait.
Parfait. Donc ça, c'est pour tout ce qui est présentation de la preuve. Ensuite, les plaidoiries, c'est là où on fait étalage de notre recherche, c'est ça?
Oui, en quelque sorte, c'est ça. Je mentionnais tantôt exposé oral. Mm-hmm. Bien, c'est un peu ça. On peut arriver avec un petit plan. C'est pas obligatoire non plus. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle un peu comme un dernier droit de parole. Une fois qu'on a présenté notre preuve, le demandeur va avoir un moment pour expliquer au juge, selon ce qu'il a entendu, qu'est-ce qu'il doit retenir et aussi c'est à ce moment-là qu'on indique au tribunal les règles de droit, qui s'appliquent. Si on a répertorié, si on a identifié des décisions dans le cadre de notre recherche, c'est aussi à ce moment-là qu'on les présente au juge, qu'on lui explique pourquoi elles sont importantes, qu'est-ce qu'il devrait retenir. Donc, ça n'a pas besoin d'être long. Il faut faire un léger retour sur qu'est-ce que la preuve a indiqué et ensuite présenter les règles de droit qui s'appliquent à la situation.
Puis là, on ne sera pas interrompu. Il n'y a pas de contre-plaidoirie. Bien, il y a la personne en défense a sa propre plaidoirie, mais c'est notre moment à nous où on peut exposer ce qu'on demande au tribunal, les raisons pour lesquelles on pense que le tribunal devrait en trancher en notre faveur, puis on ne sera pas interrompu par l'autre partie.
Non, puis si l'autre partie fait sa plaidoirie, c'est super important de respecter son droit de parole. Chaque personne va avoir son tour, puis c'est ça. Il n'y a pas de contre-interrogatoire quand on est en plaidoirie. C'est vraiment un moment privilégié. C'est votre dernière occasion là, d'expliquer au juge votre point de vue.
Puis, quand c'est fini, les plaidoiries, est-ce que le juge, il rend sa décision, il tranche le conflit directement? Est-ce qu'on quitte pour la journée, puis on revient le lendemain?
C'est variable, encore une fois, ça dépend vraiment des dossiers. Des fois, c'est quand même rare, mais parfois, le juge va rendre décision immédiatement. D'autres fois, il va prendre la cause en délibéré. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ça veut dire que les gens ont terminé de présenter leur dossier, vont retourner chez elles et on attend de recevoir une copie de la décision en tant que telle qui va être rendue par le juge. Généralement, le juge a 6 mois pour rendre sa décision. Donc, il va en délibérer, il va réviser le dossier, réviser ses notes et va rendre une décision par écrit.
Le délibéré, c'est un peu la période de réflexion de la personne qui juge pour dire, bon, comment est-ce qu'on tranche ce dossier-là?
Et d'attente pour les gens.
Exactement, oui. De l'autre côté, c'est tourner les pouces.
C'est nécessaire. Un dossier, ça peut parfois être compliqué. Il y a plusieurs règles qui peuvent s'appliquer, plusieurs mm-hmm. exceptions. Donc, ça prend nécessairement un certain temps là, pour que le juge puisse tout assembler les pièces du casse-tête et arriver avec sa décision.
Puis la décision, on la reçoit comment?
Généralement, c'est une décision qui va être écrite. Ça peut être par la poste ou par courriel, tout dépendant, là, chaque juge a sa façon de procéder.
Puis à la lecture, là, on a fait le procès, on est maintenant après le procès avec la décision en main, et à la lecture, on n'est peut-être pas d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire?
En fait, on peut aller en appel de la décision, mais c'est plus compliqué que simplement de ne pas être d'accord mm-hmm. ou si la personne est déçue. T'sais, généralement, la partie qui perd est déçue de la décision. Ce n'est pas suffisant pour vous pouvez aller en appel, mais ça ne veut pas nécessairement dire que la décision va être modifiée, va en être changée. Pour aller en appel, il faut indiquer au tribunal auquel on s'adresse que la décision du juge a une erreur qui est à ce point importante que la décision aurait été différente. Donc, c'est vraiment une erreur déterminante qui doit être, qu'on doit indiquer là, à la cour. Puis, au Québec, généralement, le tribunal d'appel, c'est la cour d'appel, son nom le dit, mais il y a également là, d'autres, il faut encore une fois identifier le bon tribunal à qui on doit s'adresser quand on veut appeler de la décision.
Donc, un appel, c'est pas de repartir en neuf, on recommence à zéro le processus qu'on vient d'expliquer, puis mais devant une autre cour, la cour d'appel cette fois. On est vraiment lié par la décision, le jugement, puis si on veut aller en appel, il faut cibler quelque chose, pointer quelque chose dans le jugement, puis dire ça, c'est pas correct en droit, ou il y a vraiment une erreur dans l'application du droit aux faits.
Exact.
Il faut trouver une erreur dans le jugement. On est lié un peu par ça.
Oui, puis il n'y a pas de nouvelle présentation de preuves. Ce qu'on a parlé tantôt avec les témoins, les documents, il n'y a pas ça. Quand on en appelle d'un jugement, c'est vraiment des erreurs sur les règles de droit qui doivent être identifiées.
Puis, tout ce processus-là implique quand même des frais. Est-ce que c'est possible d'avoir un remboursement des frais si finalement le tribunal tranche en notre faveur?
En fait, certains frais peuvent être remboursés. C'est ce qu'on appelle les frais de justice. Grosso modo, là, ça vise les frais que les gens vont avoir payés pour déposer la demande, la réponse. Donc, vraiment les frais qui auront été payés au greffe. Mm-hmm. Ça peut aussi inclure les frais de huissier quand une personne retient les services d'un huissier pour aller porter certains documents. Ces frais-là peuvent être remboursés. Encore faut-il les avoir réclamés dans la demande. Donc, c'est super important. Le juge ne pourra pas ordonner un remboursement de ces frais-là s'ils n'ont pas été demandés. Alors, ces frais-là peuvent être remboursés. Par contre, si la personne a retenu les services d'un avocat, ce n'est pas le même principe qui s'applique. Et c'est dans des cas exceptionnels où les frais d'avocat peuvent être remboursés. C'est vraiment quelque chose de différent des frais de justice.
Et finalement, évidemment, la décision, elle ne lie pas juste nous, mais elle lie aussi l'autre personne qui est impliquée dans le conflit. Comment est-ce qu'on fait pour que la décision soit respectée? Évidemment, normalement, on s'attendrait à ce que tout le monde respecte la décision d'un tribunal dans un monde idéal, mais on n'est pas dans un monde idéal.
Ça peut arriver. Faut garder à l'esprit, en fait, que le jugement, la décision ne vient pas avec un chèque. Il faut être capable, en fait, une fois que la décision elle est rendue, la personne qui a perdu a un délai de 30 jours pour s'exécuter, si elle doit payer une somme d'argent, pour payer de manière volontaire. C'est un délai de 30 jours. Une fois que ce délai-là est expiré, si la personne n'a pas respecté le jugement, alors, il faut demander l'aide d'un huissier pour que la décision soit exécutée, pour qu'elle soit respectée. Encore là, il y a des frais qui s'appliquent à cette étape-là. Et ça peut être aussi difficile si la personne qui a perdu est introuvable ou si elle a des difficultés financières. Donc, il peut aussi y avoir des difficultés additionnelles rendues à cette étape-là.
Donc, on est un peu passé avec ça de l'étape zéro à l'étape finale. On est passé du début d'une procédure à la fin, une fois qu'on obtient le jugement. Si on avait une chose à retenir, une chose qu'il ne faut pas oublier en matière civile quand on veut se lancer dans une procédure devant les tribunaux, qu'est-ce que ce serait, selon toi?
Selon moi, ça serait vraiment de se responsabiliser. C'est comme, je l'ai mentionné à quelques reprises au cours de l'épisode, quand on reçoit un document, il faut réagir, il faut le lire, il faut aller chercher l'information nous-mêmes, aller chercher les ressources nécessaires aussi pour bien comprendre qu'est-ce que je dois faire, comment réagir. Et c'est pas l'autre personne qui va pouvoir vous aider malheureusement, et c'est pas non plus le tribunal est limité aussi dans qu'est-ce qu'il peut faire. Mm-hmm. Donc c'est vraiment à la partie le demandeur, la personne qui poursuit, mais également à la partie qui se fait poursuivre, de se responsabiliser et d'aller chercher toute l'information nécessaire pour faire valoir ses droits.
Donc, qu'on soit à la demande ou en défense, peu importe qui on est dans le parti, dans le conflit, on a des obligations qui viennent avec le fait d'être impliqué devant un recours, devant les tribunaux. Puis, c'est à nous de prendre nos responsabilités en main puis de s'assurer qu'on ne se retrouve pas perdant d'une manière ou d'une autre dans ce dans ce dossier-là. Puis c'est pas juste en perdant notre cause qu'on peut se retrouver perdant. Comme on l'a dit, ça peut être en ne répondant pas tout simplement à une demande introductive d'instance.
Exact. Puis il y a plein de ressources qui existent aussi qui vont être en référence là, au balado d'aujourd'hui, mais vous pouvez aussi, il y a beaucoup d'outils en ligne, le site Internet d'Éducaloi, il y a plein d'informations fiables, juridiques qui sont disponibles, qui sont à la disposition de tout le monde. Et également, les centres de justice de proximité qui peuvent être un bon point de départ lorsqu'on veut aller chercher de l'information vraiment légale qui s'applique à notre situation.
Merci beaucoup, Elisabeth. Alors, voilà qui termine cet épisode d'Ensemble à la Cour. On a eu le plaisir de s'entretenir étape par étape sur les étapes procédurales devant les tribunaux civils avec Maître Elisabeth Lachance. Pour accéder à toutes les ressources qui ont été mentionnées, que ce soit les sites web, les centres de proximité de justice qui sont proches de chez vous, ou simplement pour avoir accès à des ressources additionnelles, on vous invite à vous rendre sur la page de l'OBNL Hoche Légal, donc hochelegal.ca, ou de nous suivre sur Facebook ou Instagram, @hochelegal. Je m'appelle Camille Lavoie-Rancourt et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode.